Bonjour au Piémont Cévenol et bien au-delà, et bienvenue dans donc le Sens de l'Actu. C'est l'émission mensuelle de décryptage de l'actualité critique où je m'appuie sur le travail des journalistes indépendants, hein, majoritairement, très majoritairement, et plutôt pas trop sur les médias appartenant à des milliardaires, pour décrypter l'actu, tirer un petit peu le sens de tout ce qui se passe et se sentir un petit peu moins perdu. Alors, après avoir pas mal parlé d'international, j'ai parlé du Venezuela le mois dernier, voilà un sujet qui se rapproche peut-être un petit peu plus de vous et moi, un sujet sur lequel vous sentirez toutes et tous concernés. C'est le budget 2026, donc, qui a donc eu lieu, qui est passé le 2 février dernier. Le massacre à la tronçonneuse qui vient porter un coup de plus à nos services publics, à nos collectivités territoriales, à notre sécurité sociale, au logement, à l'éducation, à la culture et j'en passe. Qu'avait donc promis Sébastien Lecornu en arrivant au poste de Premier ministre ? Ne pas recourir à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour faire passer en force le projet de budget désastreux de la Macronie pour 2026. Du coup, bah évidemment, il a recouru au 49-3. Mais bon, il a dit que c'était à contre-cœur, donc ça va. Eh bien non, ça va pas du tout. Et ce « ça va pas du tout », il nous emmènera bien plus loin dans la réflexion politique qu'une simple énumération des coupes budgétaires dantesques qu'on nous impose au nom de la réduction du déficit. Chers concitoyens, c'est notre modèle social tout entier qu'on anéantit sous nos yeux. Un modèle qui faisait de la France un pays qui savait utiliser l'impôt pour proposer des services publics accessibles à tous, malgré de fortes inégalités sociales et une économie libérale dominante. Quel est le plan donc pour aujourd'hui ? On ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. On va récapituler, présenter une vue d'ensemble claire et précise de ce budget 2026, puis on va voir pourquoi il faut refuser cette situation, pourquoi c'est un choix politique et pourquoi il faut faire autrement. Regardons donc de plus près ce projet de loi de finances ou PLF. Ce mois-ci, c'est beaucoup sur Mediapart. Là, j'ai pris un abonnement récemment et c'est sur Mediapart que j'ai pu lire pas mal d'articles donc sur ce projet de loi de finances. Donc, dont un article qui est sorti le 3 janvier, juste après que le budget soit passé donc par 49.3, le 3 février, juste après que le budget soit passé de force par 49.3. Donc afin de se plier aux exigences austéritaires de l'Union européenne en passant en dessous des 3% de déficit d'ici 2029, le gouvernement Lecornu prévoit pour cette année des économies de 9 milliards d'euros, réduisant les dépenses de tous les ministères sauf celui de la guerre, enfin de la défense. Baisse de 250 millions d'euros pour la culture, réduction de 290 millions d'euros pour les aides au logement, de 200 millions d'euros pour la fonction publique d'État. Donc en gros, bah, c'est tous les salaires des fonctionnaires, donc les enseignants, mais aussi les policiers et tous les autres, vous connaissez un peu. Donc il y a aussi la suppression de l'aide au permis de conduire, la baisse des aides à l'apprentissage, le gel total des aides à la rénovation, ça beaucoup d'entre vous ont dû en entendre parler. Et je ne peux pas ne pas parler aussi de la situation des radios associatives telles que la nôtre, Radio Escapade. Le projet de loi de finances 2026 prévoyait initialement de réduire de 45% les fonds du FSER, le fonds de soutien à l'expression radiophonique locale, qui permet de financer des emplois donc là-dedans, et de faire vivre l'expression populaire dans son énorme diversité, mais aussi donc une sorte de journalisme alternatif tel que je le propose. Alors moi je fais pas du journalisme, hein, je me sers du travail des journalistes et je vous le présente, mais tout ça représente quand même une forme de contre-pouvoir. Donc grâce peut-être à la médiatisation du débat sur le budget 2026, qui a pu mettre une certaine pression aux parlementaires, donc à l'Assemblée et au Sénat, pour lutter et éviter ça, donc on a évité le pire. Et le budget des radios locales se maintiendra à 15,7 millions d'euros, au même niveau donc que 2025. Donc on évite le désastre. Mais ça avait déjà baissé en 2025, comparé au budget de 2024 qui était de 18 millions. Et sinon, ma petite observation personnelle, c'est que si on tient compte de l'inflation, on peut considérer qu'un budget qui reste le même que l'année dernière revient à faire baisser les moyens des radios locales de façon notable, parce que tout augmente. Donc si on reste au même niveau, c'est des moyens qui baissent en réalité. Ça, c'est un piège qu'il faut savoir détecter. Donc pour en savoir un petit peu plus, c'est un communiqué d'une Confédération des radios associatives qui est partagée donc sur le site d'Escapade. En ce qui concerne la santé, c'est le PLFSS, projet loi de financement de la sécurité sociale, qui détermine le plan et l'orientation des dépenses et des recettes. Donc certains soulignent le fait que les dépenses de l'assurance maladie augmenteront cette année de 3%, soit 8 milliards d'euros. Mais en réalité, cela correspond, donc encore une fois la même logique, à une baisse des moyens au regard des besoins. Parce que l'augmentation naturelle des besoins de dépenses de santé en France est de 4%. Ça augmente chaque année à cause notamment du vieillissement de la population qui nécessite plus de soins. Et c'est certainement pas l'augmentation de l'âge de départ à la retraite à cause de la récente réforme qui va arranger ça. Ce que réclame donc la situation des hôpitaux, des services d'urgence, la multiplication des déserts médicaux et j'en passe, ce serait une augmentation significative des dépenses de santé. D'ailleurs, si vous habitez à Saint-Thibault, les médecins de la maison de santé ont affiché un récapitulatif de certaines mesures visant la médecine générale et qui risquent d'affecter la qualité des soins. J'aime bien quand les gens qui travaillent communiquent pour alerter politiquement et lancer le débat politique. Donc dans la salle d'attente de la maison de santé, vous pouvez voir un petit peu leur lancement d'alerte. Donc pour revenir à quelque chose de plus global, on nous présente la situation ainsi. Voici les moyens qu'on a, ils sont limités et on a d'autres choix que de réduire les dépenses. On se retrouve donc à remercier nos gouvernants d'avoir abandonné certaines mesures immondes, comme le doublement des franchises médicales ou la fin de l'exonération d'impôt sur l'allocation adulte handicapé, la AAH. Entre parenthèses, donc si nos députés ne s'étaient pas battus là-dessus, ce serait passé, et ça c'est quand même dingue. Mais je ne vous ai pas encore parlé des recettes de l'État. Les moyens ne sont donc peut-être pas limités. Ces décisions sur le budget ne concernent pas que des dépenses, mais aussi l'argent qu'on choisit de faire rentrer dans les caisses de l'État, donc les recettes. Autrement dit, l'impôt. Or, et c'est peut-être le plus grave dans cette histoire de budget 2026, malgré le creusement des inégalités de revenus ces dernières années, malgré l'enrichissement exponentiel des 10% les plus riches, nos dirigeants refusent catégoriquement de se servir de cette manne. La taxe Zuckman, vous avez dû en entendre parler, alors qu'elle a été sur le devant de la scène en septembre dernier, est retombée dans l'oubli. Pour rappel, elle consistait en un impôt plancher de 2% sur le patrimoine des ultra-riches. Bien sûr, elle a été rejetée. Alors que, selon Gabriel Zuckman, donc l'économiste qui a proposé ça, si elle était adoptée de façon coordonnée au niveau mondial, cette taxe sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros pourrait rapporter entre 200 et 250 milliards. Là, on parle au niveau international. Et petite parenthèse, pourquoi le faire de façon coordonnée, hein, pour ne pas permettre à des riches de s'évader en disant l'herbe est plus verte ailleurs pour eux. Mais bon, on en est encore loin de penser à des mesures comme ça prises au niveau international dans beaucoup de mentalités. Et donc, elle rapporterait entre 200 et 250 milliards selon lui. Elle permettrait de financer des chantiers d'amélioration de la vie humaine par tout un tas d'investissements sociaux, ce qui permettrait d'imaginer un monde tout nouveau et bien meilleur. Quand Sébastien Lecornu donc se félicite qu'il n'y ait cette année aucune augmentation des impôts pour les ménages, il s'agit de vous et moi, mais aussi de Bernard Arnault, Martin Bouygues, Xavier Niel, Vincent Bolloré, donc des milliardaires. Mais ces personnes payent un impôt ridicule en proportion de leurs revenus. Donc les ménages, ça recouvre tout un tas de réalités extrêmement différentes. Et c'est pas du tout une bonne nouvelle qu'il n'y ait aucune augmentation des impôts. Si, si. Donc, comme l'explique bien un article de Mediapart ou le numéro de Cash Investigation du 4 décembre dernier, les milliardaires et de nombreuses personnes qui tirent des revenus de dividendes, donc en gros des actions qu'ils ont en bourse, se débrouillent pour déclarer un revenu imposable ridicule, voire à zéro pour certains. et donc ne payer aucun impôt sur le revenu. Et ça, c'est grâce aux holdings, qui sont des espèces de sociétés écrans qui sont très peu fiscalisées, à 1,25%, je crois. Et rien n'est fait par rapport à ça. Alors que cet argent est le nôtre, celui de tous les travailleurs du bas de l'échelle de ces empires industriels, tous les gens qui sont employés donc dans les groupes Bolloré, Bouygues et compagnie, dont une partie non négligeable du temps de travail sert à enrichir les propriétaires des moyens de production. Oui, là on rentre dans quelque chose de marxiste. Hein. C'est aussi l'argent des consommateurs des biens et services produits par ces entreprises. Et cet argent, toute cette valeur, est sans cesse pompée du bas vers le haut de la société. Donc c'est un peu l'inverse du ruissellement que nous racontait Macron au début de son mandat. Je vous conseille donc de lire L'énigme du profit de Christophe Darmanjat. J'essaierai de faire une spéciale là-dessus sur le profit. Et même, je vais essayer de contacter l'auteur. Mais bon, ça, c'est un peu spéculatif pour l'instant. Mais j'ai besoin de vous parler de ça. Donc, pour revenir au budget, on ne se résout toujours pas, par ailleurs, à taxer l'héritage. Alors qu'un tel impôt ne concernerait que les plus grandes fortunes, il semble y avoir en France une forte réticence à cela. C'est ce que j'ai pu lire dans Alternative économique du mois de janvier, où il y a un dossier là-dessus. Selon l'article, la part du patrimoine hérité en France est passée à 60% du patrimoine total, après un minimum de 35% au début des années 70. Et le début des années 70, c'est une époque où des millions de Français avaient pu s'extirper de la grande pauvreté. C'est un petit peu l'apogée des Trente Glorieuses, donc pas forcément l'époque la plus malheureuse. Et à cette époque, la part du patrimoine était très faible. La part du patrimoine hérité dans le patrimoine total était très faible. Donc en gros, on était en train de sortir d'une société d'héritiers et on revient, selon certains observateurs, là-dedans. En plus de cela, on redirige une grande partie des impôts vers, suspense, les grandes entreprises. Donc en gros, les impôts, la richesse est pompée d'abord par les milliardaires, par les grandes entreprises. Ensuite, on prélève l'impôt et les plus riches râlent, mais il y en a une grande partie qui reviennent vers eux via l'aide publique aux entreprises. Et c'est un rapport du Sénat qui a pointé cette orgie d'argent public qui s'est élevée en 2023 à 211 milliards d'euros. J'en ai déjà parlé, ce rapport sénatorial qui a pointé ces abus-là. 211 milliards d'euros, c'est absolument énorme. Si on ne prend qu'une toute petite partie de tout ça, il n'y aurait eu aucune baisse du budget dans la santé, l'éducation, la culture et compagnie. C'est donc très clair. Nos dirigeants refusent catégoriquement, systématiquement, de prendre l'argent là où il s'accumule en quantité astronomique, donc dans les comptes en banque des milliardaires, argent qui pourrait servir à perpétuer, à améliorer nos services publics, et qui servirait aussi à en finir avec la précarité, à fournir à chacun l'accès à la santé, à une éducation de qualité pour ses enfants, à des transports, mais aussi des loisirs. Mais heureusement, un poste de dépense est préservé, est privilégié et chouchouté même. Vous ne devinez pas, réponse après un petit morceau de musique. Thank you. Vous êtes de retour sur Radio Escapade, le sens de l'actu, émission mensuelle de décryptage critique de l'actualité. Donc on vous a parlé, on vous parle ce mois-ci du budget 2026 qui vient de passer début février à l'Assemblée. Donc on a passé rapidement sur les ministères et les postes de dépenses qui ont été réduits pour certains de façon assez radicale. On est passé aussi sur les impôts qu'on refuse de prélever et donc les recettes qu'on refuse d'avoir qui pourraient financer tout un tas de choses. Et je vous demandais donc, avant le morceau de musique, quel ministère, par contre, a bien pu échapper à ces coupes budgétaires ? Mais évidemment, vous avez certainement deviné, c'est la Défense. Donc le 10 décembre dernier, au cœur des débats sur le budget à l'Assemblée et de toutes les coupes budgétaires qu'il y a eu, 411 députés sur 521 ont voté l'augmentation du budget de la Défense. Du budget donc de la guerre. Je remercie CQFD que j'ai lu au mois de janvier pour leur approche antimilitariste. Ils précisent que les députés France Insoumise qui ont voté contre ne l'ont pas fait par antimilitarisme mais en critiquant l'orientation des dépenses. Donc quand même les représentants de la gauche radicale se mettent sur le pied de guerre, le camp pacifiste se retrouve bien isolé. Alors CQFD, fidèle à la tradition marxiste internationaliste, dépoussière pour nous le concept de défaitisme révolutionnaire. En bref, lorsqu'une guerre se prépare, les peuples des deux camps doivent entrer en conflit avec leur propre gouvernement pour refuser à tout prix l'envoi de troupes et les bombardements. Mais quand guerre il y a, c'est bien souvent un conflit impérialiste, donc très inégalitaire. Les habitants du pays envahisseur ou impérialiste doivent alors, selon le principe du défaitisme révolutionnaire, saboter la machine guerrière par tous les moyens pour empêcher l'agression. Parce que c'est surtout le pays agressé qui risque de payer les pots cassés. Et donc le défaitisme révolutionnaire, si j'ai bien compris, serait donc une grande victoire des peuples contre les profiteurs de guerre. Donc pour conclure cette spéciale sur le budget 2026, que peut-on dire ? Le projet initial représentait un massacre sans précédent de notre système social et les votes à l'Assemblée et au Sénat, malgré les trahisons d'une partie de la gauche, ont permis d'atténuer les dégâts. Mais notre approche d'aujourd'hui ne consiste pas à se réjouir que certaines mesures scandaleuses et mortifères aient été annulées. Parce que c'est pas parce que ce qui était proposé à la base était catastrophique que c'est une super nouvelle, parce que c'est moins désastreux que ce qui était prévu. La mise en perspective avec le refus de taxer les plus riches et les grandes entreprises permet de comprendre que nous pourrions attendre beaucoup plus de notre système redistributif et qu'il est absolument possible de financer cela, car des quantités de richesses colossales nous échappent au profit des plus grandes fortunes avec le soutien de la Macronie. On peut pester contre l'impôt qui nous accable, c'est compréhensible quand on est un petit entrepreneur par exemple et qu'en parallèle on voit les services publics se dégrader alors qu'on paye toujours autant d'impôts. Mais laisser les services publics se dégrader par la privatisation et l'asphyxie budgétaire, c'est un choix de nos dirigeants. Faire que les plus modestes comme vous et moi payons beaucoup plus d'impôts en proportion de nos revenus que les milliardaires, c'est aussi un choix politique. Par exemple, la TVA, c'est ce qui finance, c'est le plus gros de l'impôt, et la TVA, c'est ce qu'on paye à chaque fois qu'on achète quelque chose, donc c'est un impôt que tout le monde paye. Ce n'est certainement pas une fatalité, comme la guerre n'en est pas une. C'est-à-dire, ce qui n'est pas une fatalité, c'est ces choix budgétaires, c'est le fait qu'on ait aussi peu d'argent pour financer nos services publics. On a aussi peu d'argent parce qu'on refuse de servir là où l'argent est. Donc pour aller plus loin sur le thème très intéressant de l'impôt, de son poids réel en France et de son utilité, il y a une super vidéo d'Elucide qui est sortie récemment, qui s'appelle « Mais où partent nos impôts et qui paye ?» et qui alimente vraiment cette réflexion. Donc au final, sur un court numéro de ce mois-ci qui était un petit peu plus sur aller plus loin sur la réflexion du budget en parlant de l'impôt et de son utilité possible. Donc merci de m'avoir écouté et au mois prochain dans le sens de l'actu sur Radio Escapade.